Radio Foot International.
Olivier Prom.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot. Rassurez-vous, la dame va bien, juste partie pour l'Égypte, non pas pour se faire momifier. Il est encore trop tôt, elle est si jeune. Non, elle est au Caire pour être au cœur, bien sûr, de l'actualité du foot africain. Cette fin de semaine, le tirage au sort de la CAN. Vous la retrouverez donc, la dame et son orchestre, en direct des pyramides, carrément. Elle a loué les trois, boum, d'un coup. Ce sera jeudi et vendredi. Pour nous donc, c'est lundi et le programme est... pharaonesque. Elle est facile, bravo. Celle-là. Ouais, donc. La Ligue 1 en France, d'abord, pour dire du mal. Voilà qui contentera une partie de nos auditeurs. Ronchon, la Ligue 1 en France. À l'idée d'entendre parler du championnat de France. Bon, en même temps, pour ceux que ça ne, à qui ça ne va pas, le sommaire, c'est nous qui décidons. On fait comme on veut. Et les esprits chagrins, eux, font aussi comme ils veulent. Après tout, la Ligue 1, donc, pour dire du mal, du PSG qui se voyait titré, mais devra patienter. La faute à qui ? À Choupo. Eric Maxime Choupo Motte. Un nom aussi gros que sa boulette d'hier. Maus costaud, un geste unique de défenseur de métier. Sauf que lui, il est attaquant et ce ballon, il n'aurait jamais dû le toucher. Un attaquant de ce tonneau-là, ça vous parle, non ? Carlos Bianchi, c'est un peu votre héritier au PSG, Eric Choupo-Moting.
Bonjour. Non, mais qui est-ce qui n'a pas raté des buts faciles ?
Oh là là, il va le défendre.
Non, je ne vais pas le défendre, mais ça peut arriver.
Mais bien sûr.
Écoute, combien de fois tu as vu des joueurs qui sont dribblés le gardien et avec le but vide, il frappe, il va sur le poteau.
Ben oui, c'est
combien
ça.
Combien de fois on l'a vu ?
Bon, je vois qu'il y aura donc à dire, mais je n'en doutais pas une seule seconde. La Ligue 1, donc, pour dire du mal de Lille, qui ne profite pas du faux pas lyonnais, des Lyonnais qui accumulent les boulettes façon autodestruction, de l'OM, qui voit non seulement le podium s'éloigner, mais peut-être aussi la Ligue Europa, et Florian Thauvin, franc du collier en zone mixte, et la franchise au micro, Marc Libra, ça le connaît.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, moi, Choupo, je pourrais dire des choses sur Choupo, je pense.
Oui, mais je n'en doute pas une seule seconde, pensez donc. Au programme également, la Liga et ce nouveau titre promis au Barça après son succès samedi sur l'Atlético Madrid, relégué à 11 longueurs. La voie est royale pour les Blaugrana qui vont devenir d'autant plus dangereux en Ligue des Champions. Position moins confortable mais favorable aussi en Allemagne pour le Bayern qui a atomisé le classiqueur à Dortmund en l'occurrence. 5-0, Naïm Moniol, ces deux matchs figuraient-ils sur les 15 que vous avez regardés ce week-end ?
Me poser la question est déjà un manque de respect.
Ah, voilà. C'est les deux premiers en fait, les 13 autres. Il s'accorde une petite somnolence de temps en temps.
Regarde ceux du week-end précédent.
Exactement. Non, mais c'est... Oui, je les ai vus, on va en parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur Dortmund.
Mais oui, je sais, on nous reproche ce programme chargé. Mais on va tout faire rentrer, c'est promis. Sinon, écrivez-nous si ça vous occupe. Et puis, en fin d'émission, nous reviendrons avec vous, Hugo Moissonnier, justement, on l'a entendu, sur les quarts de finale aller des Coupes d'Afrique des clubs. Quand je pense que vous avez quitté les joies de votre première et toute fraîche paternité pour nous, pour ces quarts de finale aller, soyez-en remerciés.
Tout le plaisir est pour moi. J'en profite.
C'est son premier jour de jeune papa ici.
Bravo, incroyable. Félicitations.
Merci. Il s'appelle Paul.
Paul,
tout à fait.
Mon petit-fils, deuxième, il s'appelle Paul.
Et voilà. Je ne le savais pas, je mentirais en disant que c'est un hommage, mais merci beaucoup. J'en profite pour l'embrasser, pour embrasser sa maman aussi.
Tant qu'on y est. On vous embrasse aussi, même les nuls, la Ligue, c'est pas bien. Radio Foot, manipulé par Thibaut, bidouillé par Pierre-Olivier, c'est parti. La Ligue 1 donc, Paris. Paris, décidément, jamais pareil à un autre club. Par un heureux concours de circonstances sur lesquelles nous reviendrons, le PSG aurait donc dû être titré pour la 8e fois de son histoire, la 6e depuis l'ère des Qatariens, c'était hier. Pour cela, il aurait fallu battre Strasbourg, à portée, a priori, d'un Paris intraitable à domicile en championnat cette saison. Et puis, patatras, Choupo est arrivé, vous vous souvenez ça, du temps de Zorro, hein.
Sans se presser,
Choupo. L'attaquant camerounais aux 3 buts cette saison, au compteur. Il avait bien commencé, il avait inscrit justement son troisième but en début de rencontre. Strasbourg avait égalisé, et puis Christopher Nkunku allait permettre à Paris de s'envoler à la demi-heure de jeu. Ah ben non, en fait. Parce que piètre attaquant, Choupo se transformait d'un coup en super défenseur. De manière inexplicable, il stoppe un ballon de Nkunku qui ne demandait qu'à aller au fond. On a revu la vidéo 100 fois, si vous êtes à l'écoute. Allez sur n'importe quel réseau social, je crois que c'est le must du jour, le truc qu'on... auquel on ne peut pas échapper. Ses coéquipiers sont médusés, le parc incrédule. Alors, avant d'en débattre, écoutons l'intéressé. Je sais, vous avez envie de le défendre, Carlos. Écoutons l'homme qui Eh ben, il s'est pas débiné, dites donc. Il est venu en zone mixte, il est venu raconter, faire face à
eu,
tous les journalistes.
Il a eu ce que portent les hommes.
Je vous arrête là tout de suite. Des femmes nous écoutent. Et elles pourraient se plaindre. Au micro de Cédric d'Olivera.
Je lui ai dit, désolé mon gars, désolé, parce que à la fin, mais il a directement compris, il a dit ouais, c'était une mauvaise réflexe. J'espère peut-être prochain match, je peux lui donner un passe décisif et qu'il marque. Mais ouais, malheureusement, le foot, il est comme ça. Il y a des occasions, des moments, quelqu'un rate quelque chose qui est grave ou bien des choses marrantes et ça fait partie de ça. Et ouais, c'est juste dommage qu'on n'a pas au moins gagné ce match. Mais c'est le foot et ça continue.
Oui, c'est comme la coiffure. De temps en temps, les coiffeurs ratent les coiffures, particulièrement celle de Eric Choupo-Moting.
Oui, il a quand même l'élégance, à défaut d'une élégance capillaire, là, l'élégance d'aller parler aux journalistes après s'être ridiculisé en mondovision. Quand même.
Oui, je me suis moqué, je le redis. Gloire à lui d'être venu. Faut quand même, comme vous le disiez, en avoir quelque Olivier. Part pour aller comme ça faire face. Donc ça, c'est bien. Carlos, défendez-nous.
Eric Choupo-Moting. Incroyable, c'est Choupo-Moting. Il m'a dit comme ça. Et moi, je lui ai répondu à midi. J'ai dit, Manuel, c'est pas lui qui a fait le 2-2.
Exactement. Ça, par contre, c'est vrai.
Si tout aurait été au match, avant la première mi-temps, je l'ai dit à ma femme, je lui ai dit, tu sais que je m'ennuie. Comme ça. J'ai dit la vérité.
Ça fait un moment. Vous n'étiez pas le
parce que je te dis une chose. Moi, j'aime bien quand on commence à toucher le ballon. D'accord ? Barcelone, il touche, il touche, il touche, il touche, il touche, mais jusqu'au moment qu'il te trouve un trou. Hein, mais il faut le trouver, le trou, parce que la question, c'est de marquer le but.
Mais la Paris avait trouvé le trou, mais il l'a bouché, tu vois.
Combien d'occasions de but il a eu en 90 minutes? 4.
Paris.
Paris.
Choupo, il en a eu 4 en 6 mois.
4, il a marqué la première. Il a raté la deuxième. Mais écoute, 4 occasions en 90 minutes que tu as eu 70% le ballon avec toi.
D'accord.
Ils n'ont pas créé des occasions de but.
On est d'accord, bien sûr. Mais le but du jeu, c'est quand même de s'étonner quand même de cette séquence. Encore une fois, elle est incroyable. Comment, on le réexplique à nos auditeurs, le ballon, il rentre. Il n'a pas besoin qu'on le touche,
le
ballon.
Le raté, il est historique, hallucinant.
Il est même plus dur c'est plus dur de faire ce qu'il a fait là que de marquer un but.
Ouais, le raté est incroyable, historique. On en voit un tous les 20 ans comme ça, et celui-là fera le tour du monde. Et encore quand on sera tous très très vieux, je pense qu'on continuera à le voir. Après, le problème de Choupo-Moting, c'est que cette bévue, elle intervient après un passif. J'en rigolais il y a 20 secondes là, avec Hugo Moissonnier, mais Choupo-Moting, il est arrivé dans la peau du type qui est là. On sait pas pourquoi Paris l'a recruté. Vous parliez de sa coiffure, il a un nom compliqué, il a pas un palmarès de fou, il a un parcours en club très moyen, une carrière bizarre.
Je crois qu'il est très aimé dans le vestiaire.
Il est très aimé dans le vestiaire.
Parce
ça ne se dément pas.
Et Thomas Tuchel l'a entraîné par le passé.
Bien sûr, et puis il a au passage son même agent, ça n'a certainement rien à voir.
Mais rien du tout.
Mais voilà, le problème de Choupo-Moting, c'est un peu comme à l'époque Roten, Dorasso, Pancrate. Tous ces types-là qui avaient des images dégueulasses, des réputations dégueulasses, et ils faisaient le moindre truc prenait une envergure terrible. Alors évidemment, tu rates un truc comme ça, et ça tu le vois une fois tous les 10 ans, bah évidemment, Twitter, c'est tout à fait le tour du monde, et tout le monde en parle, et il va se faire moquer de lui. Mais je suis d'accord avec Carlos, le raté est incroyable. Maintenant, s'il y a deux partout à la fin du match, c'est pas parce que Choupo-Moting a raté un but.
L'idée n'était pas d'évoquer le 2-2 et de dire qu'il était responsable du 2-2. L'idée est d'abord
incroyable
raté.
Mais le raté rentre dans, puis de toute façon, rentre dans une soirée très bizarre où Mbappé est sur le banc, où l'équipe joue pas bien, où Tourelle est extrêmement nerveux depuis 3-4 semaines. Voilà, c'est tout ce qui fait le sel de Paris depuis l'élimination.
On va parler à Marc. Marc.
Voilà. Non, mais... Monsieur Manuel, vous n'avez pas été attaquant à haut niveau. Marc Libra, lui, si.
Il y a deux choses. Bon, pour revenir à Paris, le championnat de Paris s'est arrêté après Manchester United, faut être clair et net. C'est-à-dire que c'est fini. La saison de Paris, après Manchester, il y a l'élimination. On sait que maintenant, tous les joueurs, ah mais je suis blessé, j'ai mal au dos. Non. Mbappé, ah non, je peux pas jouer, j'ai joué 9 matchs. Mais comment ça, mon garçon? Mais tu as 20 ans, tu peux pas jouer. Il faut se reposer. La saison, elle s'est arrêtée.
Il y avait 15 noms, je crois, sur la feuille de match. Hier, il a droit
à 18. Même pas assez de joueurs.
Le 6 ou le 7 mars.
Voilà, 6 ou 7 mars. Donc le PSG a arrêté sa saison. Donc depuis, c'est en roue libre. On s'ennuie à mourir. Il joue un match face à Marseille. Ben c'est bien, autrement on attend la finale de la coupe, il se passe plus rien. Pour Choupo-Moting, il a créé quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a eu la Magyar, il y a la Zlatan, il y a la Arconada, et maintenant il y a la Choupo. C'est-à-dire que c'était irréalisable. Ah
mais c'est dans le négatif, malheureusement. Là. Tous les autres, c'est plutôt positif.
Mais il rentre dans l'histoire. Bon, mais vous vous rendez compte, c'est l'histoire ce qu'il a créé. Mais on rigole, mais c'est l'histoire qu'il a créée. C'est-à-dire que Arconada, elle passe sous le bras. Zlatan, je touche Zlatan avec un coup de talonnade. Magyar, la talonnade. Lui,
il a créé la choupeau. C'est-à-dire que là, on va revoir quand un mec va essayer, parce que c'est, je pense que la Magir, je l'ai tenté,
mais
je l'ai réussi.
C'est un geste unique, on le reverra jamais, une choupeau.
Ah, peut-être, c'est et on repensera à choupeau. Mais c'est l'histoire, il a créé le football, ce garçon. C'est, le PSG est en train de nous créer l'histoire avec Choupo-Moting. C'est magnifique, mais c'est magnifique. J'ai jamais vu ça.
Vous pensez que le
choupeau, c'est plus facile pour lui. Il y a deux solutions. Hier soir, ou il laisse passer sa rente, ou alors il prend du pied droit. Et il met un but.
Le jeune papa à côté de nous va découvrir dans quelques mois, quelques années, Choupi, hein, l'histoire de Choupi. Nous, hier, on a découvert Choupo. Choupo, c'est un autre.
Mais c'est énorme. Il a créé l'histoire.
Ce que tu dis, Marc, c'est vrai, on l'a tous constaté. Mais il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que j'ai l'impression que Thomas Tuchel ne s'attendait pas à ça. Parce qu'après la Ligue des. Non, mais je te jure. J'ai l'impression qu'après la Ligue des Champions, Thomas Tuchel. Non, je parle pas du geste de Choupo. Enfin, je pense que.
Personne s'y attendait. Quand vous voyez la réaction sur le banc, et notamment de Kylian Mbappé, parce que les mecs pensent qu'ils sont filmés et que c'est pour une émission de télé pour rire.
Tout le monde. Je pense que pour revenir au cas du PSG et de ce match globalement, Thomas Tuchel a découvert un truc que nous on connaît parce qu'on a vu comment ça se passait avec Emery.
Paganelli. Il a découvert Paganelli.
Ouais, également. On l'avait découvert aussi, lui. C'est qu'il a découvert qu'une fois que la Ligue des Champions est terminée, Paris ne joue plus. Parce que généralement, la saison, elle est pliée au mois de décembre et puis qu'il n'y a plus que ça qui compte. Et si tu prends son état.
Une petite Coupe de France, quand même. Bon,
Pour Paris, c'est pareil. Hein. Et j'ai l'impression, tu vois, que Thomas Tuchel, ça explique sa nervosité des 3-4 dernières semaines, c'est qu'il se rend compte quand même qu'il n'a pas le contrôle du club. Rappelle-toi sa communication en conférence de presse, comment elle était souriante, comment elle est sympa. Maintenant, la moindre question.
Il est très énervé. Expulsé, la moindre question.
Ouais, mais même en conférence de presse la semaine, la moindre question, un peu machin, bing, il part au quart de tour. Je vous l'ai déjà dit. Il s'énerve pour rien. Tu sens qu'il n'a plus la main sur ce qui se passe au club.
Et Neymar, vous avez été entraîneur, non? Ben, Carlos Bianchi. Si, il a été entraîneur, lui. Alors,
qu'est-ce
que vous pensez de Thomas Tuchel?
Je ne le connais pas, mais je dis...
d'attitude, Carlos.
Ce que je ne comprends pas, c'est, comme il a dit Marc, un mec de 20 ans, comme Mbappé, dire que je le laisse au repos, c'est une chose incroyable. Moi, je suis Mbappé, je l'oblige à l'entraîneur à me faire jouer. Je dis, excusez-moi. J'ai envie de jouer parce que j'ai envie de finir meilleur buteur de France, être le meilleur buteur d'Europe. J'ai 8 matchs à marquer des buts. Moi, j'ai un pari. Mbappé, même s'il est champion du monde, il a 20 ans pour gagner des paris. Et l'intérieur, il ne peut pas le dire. Il faut que tu te reposes. Parce que t'as
pourquoi
joué
faire
à 20,
faire
à 20 ans. T'as envie de jouer tous les jours à 20 ans. C'est lui qui l'a eu 20 ans. Tu veux jouer tous les jours au football. Mais ne fais pas entraîner. Si tu veux, je ne vais pas à l'entraînement. Il n'y a aucun problème. Mais le jour du match, laisse-moi jouer. Ça, je ne comprends pas. Et en plus, il a fait jouer des joueurs à des places. Alves, l'autre à gauche, Janat.
Alves, il était attaquant. Non, mais Dani Alves, il était attaquant. Quand vous appuyez sur le match, vous aviez l'impression que chaque fois, il était devant.
Parce qu'il ne sait pas où le mettre.
Oui, mais en même temps,
il ne sait pas où le mettre.
Tu as commencé le joueur avec 8 joueurs à focation défensive sur le terrain. Donc forcément, tu as des mecs qui vont monter.
Ce sont des choses que je ne comprends pas. Parce que Alves, une chose, c'est être en arrière, que tu arrives en plein course avec le ballon, tu as la clairvoyance, tu mets un bon centre, tu peux frapper au but, tout ça, parce que tu arrives derrière. Mais quand tu joues au milieu terrain, si tu as joué au milieu terrain, tu as un mec dans ton dos. Tu n'as pas la facilité pour te retourner à droite, à gauche, parce qu'il n'a pas les automatismes, lui. Comprends ce que je dis?
Bien sûr.
Il a passé inaperçu.
Ça se voit, il suffisait de regarder le match.
Un joueur comme lui, il a passé inaperçu.
Bon, alors, bref, le PSG aurait pu être champion, il ne l'a pas été, il le sera peut-être dimanche prochain.
J'espère
si ça se trouve, on s'est trompé depuis le début, ils ne vont pas être champions. Bon, c'est de folie la fin de championnat.
Si ça se trouve, Marseille va prendre la deuxième place.
Si ça se trouve, oh la vache. Bon, alors donc on a encore beaucoup à dire.
Ils avaient prévu une fête modérée, il me semble.
Mais il
manquait de titres. Ça ne pas à vivre une soirée si historique que ça.
Mais attends, pourquoi lui, Gustavo, il ne joue plus?
Ah, mais on va reparler de Marseille. Non, mais Carlos, commencez pas à faire le sommaire. On verra plus tard. Oui, non. Maintenant, on va évoquer la possibilité d'être champion dimanche prochain à Lille. Parce qu'il joue à Lille. C'est un sommet du championnat. Lille-PSG. Un truc de dingo. Ce sera sûrement dimanche soir sur la chaîne cryptée. Lille qui a fait 1-1 à Reims. C'était un sommet, hein. C'est vous dire si la Ligue 1, c'était quand même le deuxième qui se déplaçait chez le sixième. On va pas dire du mal de Reims, ils seront en Ligue Europa, ils vont peut-être la gagner la saison prochaine, hein, Carlos.
Pourquoi pas? Il faut y croire.
Ben voilà.
Il faut y croire.
Un nul heureux, a priori, pour les Lillois qui réclamaient.
Tous les deux réclamaient un pénalty à la fin. Alors, il y avait l'entraîneur de Lille, il dit il va, disons, soutenir ce qu'il avait dit Platini et qu'il ne croyait pas au VAR. Ça veut dire qu'à Lille, ça ne l'a pas plu.
Bien sûr.
Et
à Reims, non
et
plus.
Et le président de Reims, il a critiqué l'arbitre.
Ce qu'on a pu noter, c'est encore une super parade de Mendy, le gardien sénégalais de Reims. Excellent encore, qui fait une deuxième partie de saison absolument incroyable. Donc, Lille, qui perd 2 points à Reims, ça aurait pu être problématique dans la course à cette deuxième place qualificative directement pour la Ligue des Champions. Sauf que Lyon, et avant, qu'est-ce qu'il y a, Marc Libra?
Non, ils n'ont pas perdu de points, puisque les autres ne gagnent pas.
Ils auraient pu
gagner un point.
C'est parce que Lyon,
c'est tout.
Ils ont pris un plus qu'ils ont perdu.
C'est clair.
Les gars, c'est ce que j'ai dit.
Lyon,
ils auraient pu perdre de points si Lyon avait fait le métier à domicile face à Dijon. Et Lyon n'a pas plus fait le métier à domicile qu'en milieu de semaine, en demi-finale de coupe. Lyon avait une semaine hyper importante par rapport à ses deux objectifs. Qualification pour la finale de la Coupe de France, puis essayer de faire la chasse à Lille. On savait que le déplacement de Lille à Reims serait périlleux. On pensait quand même que la venue de Dijon, relégable à Lyon, serait presque une formalité. Et puis patatras, ils se sont fait éliminer de la Coupe de France, donc chez eux par Rennes, avec le petit pataquès entre Genesio et son président, restera
surtout
pas.
Ça, c'est un gros problème.
Voilà, ça c'était quand même médiatiquement parlant phénoménal.
Très moyen, très
moyen. Et boum, soi-disant, il n'y a pas de conséquences. Bah si, il y en a quand même un peu, parce que derrière, vous perdez chez vous 3-1 vendredi. Est-ce que ça condamne Genesio? Est-ce que vous êtes d'accord pour le terme autodestruction? La semaine dernière a été humiliante pour l'OM.
Entièrement sur l'autodestruction, parce que le problème, on l'a beaucoup souligné cette saison, c'est qu'à Lyon, vous n'avez pas de leader. Les cadres sur le terrain n'ont jamais réellement assumé leur statut, mis à part Lopez. Ce qui tenait la baraque, ce qui permettait de jouer le haut de tableau et puis la Ligue des Champions, moi jusqu'au 8e, c'est que Genesio avait le soutien de son président, et même si les supporters avaient la grogne, il y avait quand même un vrai soutien. T'avais un socle. Ce socle-là a explosé après la demi-finale de Coupe de France, quand Olas est venu humilier Genesio, et je vais pas dire le terme, mais bon, tu m'as compris, en conférence de presse devant tout le monde.
Genesio soutient le contraire, hein, évidemment.
Les joueurs aujourd'hui sont dans un club où plus personne ne tient la barre, parce que tu sais que Genesio va s'en aller. Il y a une phrase dont personne n'a parlé, qui moi m'a fait tilt dans cette fameuse conférence de presse, c'est Genesio qui dit « je veux laisser le club là où je l'ai pris », c'est-à-dire en Ligue des Champions. Quand il dit ça, ce que tu dois comprendre, c'est « je m'en vais ». Il le dit pas, il le dit à demi-mot, ça se sait en off, machin, il va se casser. L'idée, c'était de finir en Ligue des Champions. Le problème, c'est que les joueurs savent que l'entraîneur va se barrer. Et que le président, très certainement, soit par le biais de Lacombe, soit par le biais de Stéphane Roche, machin, ils savent très bien qu'il y a des contacts à droite à gauche, que ce soit avec Laurent Blanc ou d'autres. Et les joueurs ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis de Genesio. Peut-être pas volontairement, mais quand t'es pas un leader pendant 8 mois, alors que ton entraîneur est soutenu par ton président, t'es pas un leader sur les 5 derniers matchs quand il vient de se faire démonter par le président.
Voilà. Naïm, excusez-moi, j'ai pu parler quelque chose, c'est parce que je vais défendre notre statut.
Oui, mais je rappelle
notre
juste.
Statut.
Je rappelle juste qu'à l'arrivée, alors qu'il reste quoi, 7 matchs à jouer.
Ouais.
Eh bien, effectivement, les Lyonnais ont perdu un point de plus sur Lille, 5 points d'écart dans cette lutte pour la deuxième place qui mènera celui
Olivier,
qui terminera cette place directement Ligue des Champions.
Excuse-moi,
oui, Carlos.
Excusez-moi, Naïm, tu es en train de dire les joueurs, ils savent que l'entraîneur s'en va. Mais moi, je suis joueur, je suis professionnel. Et c'est moi qui vais jouer la champion l'année prochaine. Je m'en fiche de l'entraîneur.
Toi, oui.
Non, mais les joueurs de Lyon,
non.
Ils sont pas... Comment
Carlos, c'est plus...
Ils sont professionnels, mais tu rigoles.
Mais Carlos...
Moi, j'étais professionnel, et même si on jouait la descente...
Mais c'est plus la même chose, Carlos.
Moi, je voulais...
Mais Carlos, moi, je suis d'accord avec toi, mais ce que tu dis, c'est plus la même chose. Tu crois que même fils de paille, il pense comme toi?
Mais écoute, mais le mec de Lyon, s'il pense pas qu'il a la possibilité de jouer et c'est de défoncer, pas pour l'entraîneur, défoncer pour lui et pour les coéquipiers, pour jouer la championne l'année prochaine, c'est pas un professionnel. Moi... Si je suis le président, je le prends en volet, je peux te le dire.
Bah, si tu le ferais certainement,
Hugo,
mais je peux te garantir que la plupart des joueurs ne pensent pas comme
ils
toi.
Ils s'en fichent.
Et qu'en pense Hugo Moissonnier? Je voudrais avoir l'avis d'Hugo.
Oui, vous parlez de joueurs qui devraient avoir envie de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, mais si je suis le raisonnement de Naïm, les joueurs qui posent problème sont des joueurs qui ont plutôt l'esprit ailleurs, ou qui avaient même l'esprit ailleurs il y a quelques mois. Fekir, il a peut-être mal digéré son départ avorté vers Liverpool l'été dernier. Depay, il n'arrête pas de clamer son envie et velléité de jouer dans un plus grand club.
Dombélé,
il est sur le départ également.
Finalement,
le destin du club, est-ce que c'est vraiment leur problème à ces joueurs-là?
Dombélé sur le départ. Ferland Mendy est sur le départ. Depay va s'en aller. Marcelo va s'en aller.
Aouar,
c'est pas sûr. Là, c'est peut-être le seul qui vont blinder pour qu'il reste un peu, parce qu'il y a aussi une politique économique derrière. Bertrand Traoré, énorme point d'interrogation. Nabil Fekir, on sait pas. Nabil Fekir, c'est un vrai problème. Il est pas parti à Barcelone officiellement pour des raisons de blessure, son genou, machin. Liverpool, pardon, désolé. T'as raison, Liverpool. Avec la saison qu'il fait, tu crois qu'il y a quelqu'un qui va venir le chercher? Tu crois qu'un énorme club va venir mettre 50, 60 millions sur un type qui a le genou qui gonfle toutes les trois semaines et qui peut pas enchaîner les matchs, qui sort d'une saison dégueulasse, qui pourra pas physiquement tenir le coup, qui a un entourage en plus très compliqué?
Bon, tout va changer à Lyon. On va y revenir. Carlos, vous alliez.
Que moi, je comprends pas qu'on n'a pas confiance dans les joueurs de football.
C'est pas que j'ai pas confiance en les joueurs de football, c'est qu'on a suffisamment d'infos pour savoir ce qui se passe à Lyon.
Je veux pas parler de moi, mais je t'explique. Tu sais que quand j'ai fini les deux fois meilleur buteur de France à Paris Saint-Germain, l'équipe il a fini 11e, 13e. Si j'avais une mentalité de laisser tomber. J'aurais pas marqué les buts.
Carlos,
que j'ai
c'est plus la même époque. Le football a changé, Carlos.
Pourquoi en fait. Ils ont changé les joueurs, la mais mentalité
L'individualisme Carlos, est peut-être un petit peu plus fort, tout simplement.
Mais moi, je comprends pas qu'un joueur de Lyon, il pense pas à jouer la Champions l'année prochaine. Mais
Carlos,
ça me rentre pas dans la tête.
Ça t'est peut-être pas arrivé dans ta carrière beaucoup, mais quand t'étais mis sur le banc par l'entraîneur, derrière, t'avais envie de rentrer, de marquer des buts pour être titulaire.
Mais bien sûr.
Aujourd'hui, un joueur qui est 3-4 fois sur le banc, il dit à son agent, je veux me casser, trouve-moi un club.
Messieurs, si on pouvait reparler du football d'aujourd'hui, mais définitivement. Carlos, je suis Carlos. Je suis Bianchi. En me tapant et en me serrant le cœur.
Bien sûr que on est de son côté.
Oui. Marc Libra ne s'est pas exprimé depuis quelques instants. Vous en pensez quoi de tout ça, de tout ce qui s'est dit sur l'Olympique Lyonnais, cette semaine humiliante, cette autodestruction, et sur le fait, qu'il se murmure que Laurent Blanc pourrait arriver. Vous en pensez quoi?
Je ne sais pas si c'est la meilleure façon. Laurent Blanc a besoin d'un adjoint qui s'appelle Gasset, qui est actuellement en poste. Blanc a toujours fonctionné avec Gasset, il ne faut pas l'oublier. Et il est très important. Donc aujourd'hui, de dire que Gasset pourrait partir de Saint-Etienne
pour aller à Lyon.
Enfin, vous imaginez. Et puis Gasset, on voit bien que ce n'est pas un mauvais coach, qu'il est en train de faire des choses. Après, sur le côté Lyon, quand on voit cette conférence de presse de mardi soir, je pense que n'importe quel être humain coach de foot, son président qui est à côté, balance ce genre de choses, Genesio est très gentil. Parce que là, je lui dis, vous savez, président, je vous remercie, je démissionne et on s'en va. Il n'y a plus rien à faire. Non, mais quand on entend un président qui est capable de dire à côté de son coach...
Naïm et Carlos acquiescent.
Vous savez quoi, à ce moment-là, quand je vois ça... Et Genesio, je l'ai côtoyé. C'est quelqu'un de foncièrement très gentil, qui a vraiment un cœur en or, parce que d'entendre ce genre de choses et d'être à côté et de rester stoïque, de dire, oui, je vais essayer de me battre ici et là, mais te battre contre quoi? Président, merci beaucoup, à bientôt. Voilà, démerdez-vous maintenant. Vous savez quoi, les indemnités, il reste 3 mois, je suis un seigneur. Et il se lève et il s'en va. Mais c'est tout, il n'y a plus rien à faire, parce que les joueurs, ils y ont fait là, ils y ont fait ce qu'on appelle la carrée, ils n'en ont plus rien à faire. Chacun fait son et chacun a appelé son agent.
Ça se sent.
Oh, c'est un club de fou, le président, t'as vu ce qu'il a fait au coach, donc il faut que je parte.
C'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est pas un manque de respect, non, c'est pas du tout. Tu comprends, Carlos?
Mais aujourd'hui, c'est pas gérable.
Mais c'est comme ça que ça marche maintenant.
Et ça se ressent, ces deux défaites-là, Rennes, encore une fois, et encore pire, Dijon, alors que vous êtes à la lutte pour le podium, mais surtout pour la deuxième
Dijon
place.
Dijon n'avait pas gagné depuis combien de temps?
Fini de rêver, peut-être, pour l'OL, fini de rêver aussi pour l'OM, battu 2-0 à Bordeaux, 42 ans d'échec en Gironde. Ça nous ramène à l'époque où Carlos jouait, dites donc, c'est vous dire, ça date pas d'hier. Alors, cette défaite-là, elle coûte cher. 8 points de retard sur Lyon et la troisième place. Un échec peut-être total cette saison pour un Rudy Garcia. Toujours un peu plus dans le déni, semaine après semaine.
L'arbitrage.
C'est jamais de sa faute. C'est jamais. C'est phénoménal, cet entraîneur.
Rudy Garcia.
Vous avez un mot à dire sur Rudy Garcia, Carlos?
Je ne le connais pas, alors je ne peux pas parler. On n'a pas le droit à parler.
Mais quand même, on le connaît pas, mais on peut l'entendre chaque semaine. Il y a toujours une excuse, et en général, c'est toujours l'arbitrage. Bah oui, Carlos, je sais bien, mais en même temps, c'est
rien,
pour ça qu'on vous fait venir.
Je dis rien. Okay.
Alors, Carlos, il veut parler quand je parle, et quand je lui donne la parole, il ne veut pas parler.
Parce que je ne peux pas donner une opinion.
Bon, pourquoi? En tout cas, il est dans le déni.
Si l'entraîneur, il trouve toujours des excuses, il a ses raisons.
Et pendant que lui est dans le déni, les langues se délient, et celle de Florian Thauvin particulièrement. Alors ça, c'est peut-être le son du week-end. Cash, lucide, étonnant de franchise. Je vous propose d'écouter Florian Thauvin. On est tout de suite après le match. Ça part dans le classique. Et puis là, après, ça dégoupille.
On démarre quand même bien, parce qu'on arrive à se créer 2-3 situations avec des centres, etc. Après, j'ai pas revu l'action du pénalty. Il y en a peut-être un pour nous. En vrai, là, je suis en train de raconter n'importe quoi. Parce qu'on a perdu le match, ça n'a rien de chercher des excuses. Je sais même pas ce que je raconte, je suis fatigué. Faut arrêter de se raconter des histoires. Franchement, on n'a pas fait une bonne saison. Et même si on allait en Ligue des Champions aujourd'hui, on ira en Ligue des Champions pour montrer quoi. Pas se raconter de conneries. Franchement, c'est toujours la même chose. C'est chaque année, c'est à répétition. On lâche les saisons pour rien. On gagne pas les matchs qu'il faut. On fait trop d'erreurs. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se taire, c'est assumer, parce qu'on n'a pas été bon, on était nul. Donc il faut l'assumer.
Incroyable. Terrible. Tout est dit. C'est vraiment le genre d'interview, de son dont on rêve tous, semaine après semaine, quand on va en zone d'interview. Tout d'un coup, il pose ses valises et il dit « on est nul ». Quelque part, il charge son entraîneur.
Hein. Olivier, et... il est sincère, je ne le connais pas, lui, mais ce qu'il dit.
Ah, lui, vous ne le connaissez pas, mais vous acceptez de parler de lui.
Non, mais j'entends ce qu'il dit. Il est sincère.
Ah oui, ça, oui, c'est clair.
Il faut le féliciter qu'il a le courage de dire ça.
Terrible. Quel constat ! En même temps, tout est dit, Marc.
Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'il s'en prend à lui, il s'en prend au club, il s'en prend à tout le monde, par la force des choses, et en plus, il a raison. C'est une lassitude gigantesque d'un joueur qui a encore, allez, on va dire, on fait une fixation sur Balotelli, mais avant Balotelli, c'était un autre joueur. Je veux bien Rudy Garcia, ah, ok, c'est Balotelli, mais non, allez, tout est sur Balotelli, au moins, on va nous laisser tranquille. Mais aujourd'hui, c'est Thauvin qui empathie et commence à l'avoir... marre de ce genre de situation. Quand on voit un Balotelli qui rentre, qui n'en a rien à faire, quand on voit, ils sont à bout, les mecs, ils n'en peuvent plus. Mais vraiment. Donc aujourd'hui, Marseille va essayer de finir tant bien que mal. Alors l'Europe, c'est déjà bien. Ils sont en train de. Enfin, certains dirigeants, pas les supporters de l'OM, mais certains sont en train de prier pour que Paris gagne, qu'il y ait une place en plus. Vous vous rendez compte jusqu'à où? Parce que c'est ce qui se dit en off à l'intérieur du club. Non, faut arrêter le. Enfin, c'est pas possible, quoi.
Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que même si les situations sont différentes, les séquences qu'ont vécues Paris, Lyon et Marseille, elles sont assez symptomatiques de ce que vivent ces clubs depuis plusieurs saisons. Paris qui enchaîne les occasions manquées, Lyon qui trouve le moyen de se saborder malgré un effectif de grande qualité face à des équipes largement à sa portée. Et là, Thauvin qui explique que ce qui se passe à Marseille, ça arrive trop souvent. Les saisons
mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai lu que l'entraîneur Balotelli, il a dit à l'entraîneur qu'il voulait pas démarrer le match.
Bah oui,
mais il était dans la formation de l'équipe.
Ça s'appelle le football moderne.
Contre Bordeaux. Comment?
Ça s'appelle le football moderne.
Tu veux pas démarrer le match et tu restes à la maison.
Mais bien sûr, c'est le mais football circus même.
Mais tu parles sérieusement.
Bah oui.
Tu parles sérieusement. Ce joueur, il m'a dit, je suis pas en condition de démarrer le match. Je dis, si tu n'es pas en condition de démarrer le match, tu n'es pas en condition de le jouer à aucun moment.
Il paraît qu'il avait perdu son chien Poupi dans la matinée, qu'il ne le retrouvait pas. Bon, et donc il
parlait,
tout démoralisé.
On parle sérieusement ou on parle pour rigoler, Olivier?
Non, là, je parlais pour rigoler, moi. Mais je sais que vous parlez sérieusement. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est le football d'aujourd'hui, Carlos. C'est pour ça qu'il faut plus vous entraîner.
C'est pour ça que je ne veux pas travailler.
J'ai bien compris. Je vais venir pas travailler avec vous.
Mais si tu prends un club, moi je fais directeur sportif.
Oui, fais ce que tu veux, mais changez la mentalité d'abord.
Je m'occupe de la com. Et qu'est-ce que vous feriez, vous, Hugo Moissonnier, dans ce club-là?
Dans lequel
Il a même Paul, lui.
Je fabrique les jeunes pousses, les jeunes talents que vous pourrez revendre à prix d'or, telle ville, telle Monaco.
Et tu prends un pourcentage.
Pratiquer un trading.
Là, on est dans le discours d'un joueur qui va partir. D'un club, là encore, un peu comme ce qu'on disait de Lyon tout à l'heure.
Oui, ce sont des clubs qui doivent un peu repenser leur manière de fonctionner. C'est ça que nous disent les séquences.
Pour rebondir sur ce que disait Hugo, je vois tout à fait ce qu'il veut dire. Il y a quand même une dimension tragicomique avec Marseille qu'il n'y a pas à Paris et à Lyon. Parce que même si Paris et Lyon s'écroulent,
c'est
Paris,
la même chose.
Non,
ils sont aussi ridicules, les trois clubs.
Ils sont ridicules, mais il y a quand même un truc qu'il faut dire. C'est que Paris est ridicule, mais tu sais qu'il va être champion. Lyon est ridicule, mais tu sais qu'il va faire la Coupe d'Europe. Et tu sais qu'un président comme Aulas, avec tous les défauts qui sont les siens, il va le redresser son club. C'est certainement pas le cas de l'OM. Parce que l'Américain, il est en train de découvrir comment ça marche le foot en France. Et crois-moi qu'il discute pas, il communique pas. Il devrait d'ailleurs peut-être, d'un moment comme ça de la saison, se faire entendre et dire ce qu'il pense. Le président héros, c'est bien beau d'aller danser, je danse le Mia dans Marseille, machin. Mais si c'est pour faire ça, c'est-à-dire donner les clés du sportif à un entraîneur qui n'écoute pas son directeur sportif, avec des contrats de signés, de joueurs qui prennent 500 000, qui vont se casser, qui n'amènent rien, ce qui se passe à Marseille est tragicomique. Depuis plusieurs saisons, c'est pire qu'à Lyon.
Et ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1, c'est un petit peu au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Paris se rate à moitié, mais conserve 19 points d'avance. Et derrière, tous ceux qui pourraient donner un peu de suspense, se sont tous troués. Ainsi va le monde de la Ligue 1. Alors passons à l'Espagne, tiens.
Quelle équipe va y avoir? Luis Suarez. Gol del Barça, pase a la red de Leo Messi.
amis auditeurs. J'espère que vous aurez reconnu le Réfé, donc ce week-end, qui commentait ce match et qui s'est bien lâché. Hein. Il était en forme, le Réfé, ça fait plaisir. Cette victoire du Barça, non, je blague. Même Carlos, il se dit, il est fou ce type. Barcelone, Atlético Madrid, 2-0, Suarez puis Messi, dans les 5 dernières minutes. Est-ce que la lutte pour le titre est finie, terminée
et 11 points d'avance. Non, hein. Ce qui est grave, c'est ce qu'il a fait Costa.
Ah, alors
c'est
Costa,
incroyable.
Carton
ça,
rouge.
Rouge. Je vais t'expliquer quelque chose.
Alors, on a le droit de
le
dire en espagnol. Hein. Il a dit deux fois, il rodait.
Si.
Voilà.
Tu sais que... Oui, il a dit ça. Tu sais parce que...
Pas avoir de problème.
Je l'expliquais tout à l'heure, Anaï. Et quand tu vois les images, l'arbitre, il explique au joueur d'Atlético Madrid, il m'a dit, hijo de puta. Il a dit, fils de puta.
Oui, on a bien compris, Carlos.
Excusez-moi. Attends, nous parlons sérieusement, là. On a envie de rigoler, on rigole. Mais je te dis la vérité. Toi, tu es président du club.
Ouais, bah,
tu me fais peur. Et tu, c'est pas sérieux.
Exactement.
Excusez-moi. J'ai droit de te filer une amende de ces amendes. Parce que tu ne vas pas jouer un match 2 ou 3. Et je risque de ne pas finir 12e. Comprends? Je suis sûr que je vais jouer la champion. Parce que le championnat, il est dans les points pour jouer la champion. Mais ce qu'il a fait, c'est pas des professionnels. Surtout qu'Atlético, il était en train de jouer très bien le match. Quand c'est lui qui a vu le match, il était joué d'égal à égal. Rarement, il a fait jouer comme ça d'égal à égal. D'égal à égal. Il attaquait même à Barcelone.
À l'extérieur, c'est rare. Hein? Atlético, ouais, franchement.
C'est pour ça. Alors je dis, je comprends rien. 28 minutes. Mais tu te trouves avec un joueur au moins. Non, moi je dis la vérité, je le file une parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive avec Costa. Hein.
Lui, souvent, d'être garçon.
Comprends ? Alors, moi, ce sont des choses que je ne comprends pas.
Griezmann, tiens, tant qu'on parle de l'Atlético Madrid, on aimerait bien le voir briller dans ce genre de match-là. L'homme qui souhaite s'inviter à la table de Messi et de Ronaldo.
Est-ce que tu veux...
Il est même pas en cuisine, là. Hein.
Olive, est-ce que tu veux que je te donne une statistique
mais
sur Griezmann?
Bien sûr, mon petit ami, vous êtes
Griezmann,
là
depuis 2014-2015, donc c'est-à-dire depuis qu'il est arrivé à l'Atlético en championnat contre Barcelone, 0 but, 0 victoire. J'ai trouvé la stat vendredi, j'étais chez RMC. 0 but, 0 victoire. Alors moi, je veux bien qu'il ait marqué contre le Real et je ne remets pas en cause son talent, ses buts, son titre de champion du monde et les rumeurs qu'il envoie à Barcelone. Moi, je crois qu'il pourrait y faire quelque chose. Mais dans ce genre de match, il est 0. 0 de chez 0. Peut-être que l'absence de Costa aussi, aussi était préjudiciable parce qu'il lui fait tout le sale boulot pour Griezmann, machin. Mais si tu veux vraiment être le meilleur, faire partie des meilleurs... Et t'énerver et t'insurger quand t'es pas ballon d'or au mois de décembre, ça passe aussi par marquer des buts dans ce genre de match.
Marc, il faut se poser la question de savoir si aujourd'hui le jeu de l'Atlético ne lui correspond plus, parce que ces équipes-là font énormément d'efforts, et c'est dommage qu'il ne reste pas à 11, parce que peut-être qu'on voit un autre Griezmann. Mais là, une fois à 10, c'est fini.
Les buts 85e et 86e, on le rappelle.
Mais avant ça, c'est pareil, tout est fermé, tout est cadenassé, il faut juste un trou de souris en enroulé pour faire la différence, et après ça lâche. Après Messi met le 2-0, mais cette équipe-là, Griezmann, dans un autre système de jeu avec de très grand joueur autour de lui, il en a des bons, l'Atlético. Mais la plupart du temps, ce qu'ils veulent faire, comme face à la Juve, c'est faire mal, c'est être agressif, c'est un pressing tout terrain. Je veux bien, mais à un moment donné, Griezmann, il a montré qu'il sait jouer aussi au football. Donc s'il a des joueurs de talent à côté qui fait un peu moins d'efforts, peut-être, parce que quand on passe 3, 4, 5 saisons à l'Atlético, je pense que c'est 6, 7 saisons ailleurs. Et il est rincé, le mec. Donc, peut-être qu'ailleurs, on verra un autre. Et là, peut-être, parce que le potentiel, quand il dit le ballon d'or, il sait qu'il a le potentiel. Mais il dit, mais les efforts que je fais,
souci,
c'est lunaire.
On va pas faire l'émission sur Griezmann en même temps. Je voudrais qu'on parle.
Non, oui, je suis bien d'accord. Il y a juste un souci, c'est qu'aujourd'hui, Griezmann ne veut pas quitter l'Espagne pour des raisons familiales.
Ouais, non, mais ça.
Et qu'aujourd'hui, il ira pas au Real parce que c'est un joueur de l'Atlético. Donc, quitter l'Atlético, ça veut dire aller au Barça. Pour aller au Barça, il faut que Messi soit d'accord. Il faut qu'il y ait une place dans le jeu. Il faut qu'il y ait un poste pour lui. C'est pas fait aujourd'hui.
Ah,
voilà, la situation de Griezmann, c'est être dos au mur.
Et la situation d'Hugo Mossoni dans cette émission?
Je voulais juste revenir sur l'Atlético et c'est ce qui a été dit. Je me demande s'il n'y a pas une forme d'autocaricature dans laquelle est en train de tomber ce club, et notamment avec cette vulgarité un peu structurelle, cette virilité exacerbée, on va plutôt dire ça comme ça, les gestes de Simeone, les provocations de Costa, effectivement le style de jeu qui parfois mise davantage sur la brutalité, alors qu'il y a des bons manieurs de ballon à l'Atlético de Madrid. On peut peut-être pratiquer un peu autre chose et peut-être que ça va pousser Griezmann à réfléchir.
Un mot sur Barcelone avant de filer en Allemagne. Barcelone titré en 2015, 2016, 2018. On est bien parti pour un quatrième titre en 5 ans, 11 points d'avance. Ça veut dire que Barcelone va en être, Carlos, d'autant plus dangereux en Ligue des Champions. Parce que l'objectif de cette saison, c'est le triplé comme en 2009, comme en 2015, c'est-à-dire la Copa del Rey, le titre de champion et la Ligue des Champions.
Je ne le vois pas si fort à Barcelone.
Ouais.
Cette année-là, je ne le vois pas si fort. L'autre jour, il a encaissé 4 buts. Et une équipe qui veut être champion d'Europe, encaissé 4 buts contre Villarreal, c'est un match quelconque. Alors, je pense que je ne le vois pas tellement, mais au football, on ne sait jamais. Hein. À Real Madrid, on ne le voyait pas être champion d'Europe, il a gagné 3 fois de suite.
On a l'impression que le championnat d'Espagne est quand même moins relevé cette année. Ce n'est pas le même niveau que ces dernières années.
Parce que le Real Madrid, il a abandonné. Il a abandonné. Il a abandonné très tôt.
Real Madrid. Le Real a vite cédé. Puis c'est vrai que l'absence de
sans Ronaldo, non, ça change tout.
40 buts. Hein. Le Real. Ronaldo, c'est
pas
40
le plus
buts.
Grand Barça de l'histoire. C'est pas le plus grand Atlético de ces dernières années. C'est pas le plus grand Real.
C'est pas le plus grand Barça. C'est pas le plus grand Atlético, machin. Après, quand on est leader du championnat d'Espagne avec 11 points d'avance, on n'est pas non plus une équipe de truffes. Il ne faut pas non plus nous expliquer.
Ah non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas le plus flamboyant.
Je suis bien d'accord avec toi, parce que je sais que sur les dernières semaines, et globalement, depuis l'élimination à Rome, Valverde, c'est une pipe et il faut le virer, on ne sait pas ce qu'il fait là. Je sais que ce n'est pas toi qui l'as dit, mais regardez ce qu'il est en train de faire, ne serait-ce qu'en championnat, même si c'est moins relevé, même si c'est moins machin, ce que Valverde est en train de faire, c'est énorme.
Bon, on va voir si ce que fait Kovac, c'est énorme. Jingle, colossal football.
Klasse gespielt! Ball hinter der Linie! Aus für Lewandowski! Kein Abseits! Und das ist die Führung! Nein!
Alors, tout à l'heure, on a entendu le refait. Ben là, c'est David Lortolari qui commentait ce week-end donc le classiqueur. Et là encore, on est surpris, hein, parce qu'il est très en forme. Donc, c'était samedi, les amis. On nous promettait un combat, une bataille. Et puis, pchit, le Bayern a tout écrasé. 5-0, 4-0 à la pause. Pas de suspense, une machine, presque comme à ses plus belles heures. Une humiliation pour nos amis de Dortmund. Ça allait bien le coup de fil à un ami. Hein. Et donc, David Lortolari est-il là?
Bonsoir Olivier, bonsoir chers amis, bonsoir à tous.
On est ravis de vous accueillir David, mais comment ne pas vous accueillir après ce classiqueur? Je le disais il y a quelques secondes, hein, on s'attendait à un vrai combat et puis boum, la montagne a accouché d'une souris.
Oui, alors dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture, il y a de magnifiques choses, de magnifiques œuvres en clair-obscur. C'est vraiment du clair-obscur ce match et toute la communication qui a été faite derrière. Il y a vraiment des choses à démêler, à dénouer, à décrypter, parce qu'effectivement, Olivier, c'est vrai, on ne s'attendait pas à un tel déséquilibre. Dortmund restait sur 3 victoires consécutives, Dortmund s'était refait un peu la cerise psychologiquement, le Bayern était un peu cabossé lui-même psychologiquement, mais allait mieux physiquement, et finalement, c'est effectivement la dimension puissance, la dimension impact, la dimension je gagne les duels, qui s'est largement imposée samedi soir. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que dans la communication d'après-match, alors que le Bayern s'était imposé brillamment, eh bien, on est vraiment sur la défensive. Les joueurs sont sur la défensive. L'entraîneur est sur la défensive en disant « J'en ai marre de prendre des coups des journalistes. J'en ai marre de me faire critiquer. Ça commence à bien faire. Maintenant, il faudrait un peu laisser de la liberté aux gens. » Et puis, côté Dortmund, paradoxe aussi, Olivier, parce que l'entraîneur Lucien Favre a fait des mauvais choix, ça me dit clairement. Mauvais choix tactique, mauvais choix dans le choix des joueurs, même aussi. Par exemple, un Modaoud au milieu de terrain a été titularisé alors que ça n'était pas le cas récemment, au détriment de Götze qui lui était bon. Voilà un exemple qui a frappé les observateurs. Alors que, et j'en terminerai par là, eh bien Lucien Favre n'est pas réellement critiqué finalement. Il va prolonger, c'est très vraisemblable, dans les prochaines semaines, pour un an ou deux. Et il y a du calme à Dortmund alors qu'il y a eu une sacrée soufflante. Donc beaucoup de paradoxes finalement dans ce match, et on n'a pas encore compris vraiment qui allait finalement devenir champion, parce qu'il n'y a qu'un point entre les deux.
Et plus 15, on peut considérer 2 points, parce qu'il y a une grosse, grosse différence de but en faveur quand même du Bayern, et un parcours à venir. Aucune de ces deux équipes ne rencontrera de cador, hein. Le Fortuna Düsseldorf, le Werder Bremen, Nuremberg, Hanovre, le Leipzig et l'Eintracht Francfort pour nos amis du Bayern, Dortmund, Mayence, Fribourg, Schalke, Bremen, Düsseldorf, Mönchengladbach.
Leipzig, Francfort à la suite, c'est compliqué ça. Hein. Pour le Bayern.
Ouais, mais comme
c'est les deux dernières journées, Leipzig-Francfort.
Mönchengladbach, la dernière journée, ça peut être embêtant aussi.
Leipzig-Francfort, ça joue les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Jovic à l'air à Francfort, Leipzig qui tourne très très bien, qui a très très bien joué ce week-end.
De toute façon, il n'y a qu'un point, il y a du suspense. Ouais, vous parliez, David, je vous pose la question à vous, puis après on fait un rapide tour de table. J'ai vu ce compte Twitter, ce tweet hier, me semble-t-il, interrogateur, et qui se demandait si finalement Lucien Favre, c'était pas un peu le Bielsa de l'Europe. Il fait jouer un football chatoyant qui plaît beaucoup aux observateurs, mais à l'arrivée, il n'y a pas un titre.
il n'a pas encore pu faire ses preuves au top niveau européen, puisqu'il a entraîné le Hertha Berlin, il a entraîné Mönchengladbach, qui devient une belle équipe, mais qui n'est pas encore redevenu le cador des années 70. Et maintenant, avec Dortmund, il s'est frotté au top niveau européen avec une équipe très jeune. Dan Axel Zagadou, par exemple, pour ne donner qu'un exemple, le défenseur central qui a été fautif samedi, n'a que 19 ans. Hein, voilà, donc Lucien Favre, pour faire ses preuves, il va lui falloir du matériel. Et effectivement, la question pour l'instant est tenace, Olivier, c'est vrai, on peut se la poser. Sera-t-il capable de faire les bons choix dans des matchs très compliqués? Ça a été impossible contre Tottenham, ils ont été éliminés, les joueurs de Dortmund. Ça n'a pas fonctionné à nouveau samedi soir. Donc c'est vrai que la question va durer encore au moins quelques mois jusqu'au prochain match au sommet pour cette équipe.
Ils étaient partis comme une balle, hein, en rafale. Ils ont eu jusqu'à 9 points d'avance. Maintenant, ils en ont un de retard. Ils en ont perdu 10 en quelques semaines sur le Bayern.
C'est peut-être ce qui leur a fait le plus de mal, puisqu'à une période, on disait ça y est, le Bayern, c'est fini, c'est ceci et c'est cela. Et de se croire trop arrivé face à une écurie comme le Bayern, qui est une institution et qui savent très bien les objectifs, qu'il faut être bon à partir de février, mars, avril, là il faut... Voilà. Et puis après, là vous parlez des matchs à venir, mais c'est surtout mentalement aujourd'hui que je pense que le Bayern a pris un ascendant. C'est-à-dire que pendant toute la saison, jusqu'à 9 points, c'est ça, ouais, 9 ou 10 points, il y a
9
eu.
Points.
Donc ce qui est énorme, là aujourd'hui, mentalement, 5. Pas 1, pas 2, 5. Et puis avec la façon. Donc là... psychologiquement, ils ont pris l'ascendant sur le coach, sur les supporters et sur les joueurs.
Hugo, vite fait.
Est-ce que je peux interpeller David
Mais bien sûr,
vous me l'accordez. David, selon vous, ce type de match, est-ce que c'est une publicité, une bonne publicité pour la Bundesliga ou bien une contre-publicité? Voilà, ça acte la domination du Bayern saison après saison et ça tue un petit peu l'intérêt du championnat allemand.
Avant match, c'était forcément une bonne publicité, 205 pays qui retransmettaient, beaucoup de spectacles. Après match, on se pose à nouveau la question. Mais quand même, il faut prendre les choses avec un peu de finesse et s'apercevoir que le Bayern, cette saison est clairement accroché, il a eu des soucis, il a gagné des matchs difficilement, il n'a qu'un point d'avance, deux c'est vrai, et je suis d'accord avec Marc, en fait psychologiquement il en a plus, mais ça reste encore un championnat à suspense. Naïm le disait, il y aura des matchs difficiles en fin de saison. Donc oui, c'est quand même une bonne publicité pour le foot allemand parce que il y a tout un package, il y a un stade plein, il y a une ambiance, il y a du spectacle. À mon avis, oui, même si sur ce match-là, c'est vrai, je suis d'accord. Le déséquilibre était vraiment flagrant.
Et on a compris que Kovacs n'était pas tiré d'affaire. Pour autant, même un titre de champion ne le tirerait pas d'affaire.
Absolument.
Il y a deux choses, et là je parle sous contrôle de David.
Le
point de départ en fait de cet inversement de situation, c'est le match aller. C'est-à-dire qu'au match aller, quand Dortmund bat Munich 3-2, tout le monde voit Dortmund champion, tout le monde se dit, alors au Bayern on attend le communiqué pour Kovac, on se dit c'est fini, c'est machin, Dortmund s'y voit, et paradoxalement à partir de ce moment-là, si tu prends les résultats, c'est là que ça s'inverse, c'est-à-dire que c'est là où le Bayern se met à enchaîner les victoires et les buts, et c'est là où Dortmund est moins bien dans le jeu, et puis qui commence à perdre des matchs et ainsi de suite, il y a zéro victoire entre le 2 février et le 9 mars pour Dortmund. Donc c'est aussi pour ça que le Bayern a réussi à revenir. Il y a une deuxième chose, c'est qu'ils ont eu pléthore de blessés sur ce match-là, tu l'as encore vu, et qu'à un moment donné, quand t'es pas en mesure d'aligner ton équipe type et que tu fais appel à ton banc de touche, faut essayer de mettre des mecs qui ont de l'expérience. Les vicieux, même si ça joue moins bien, il faut essayer d'avoir des mecs qui vont te pourrir le match pour le gagner. Ces joueurs-là, soit il les a pas phares, soit il les a pas fait jouer. Et là, je rejoins ce que disait David. Il n'y avait pas Götze par exemple sur la pelouse. Dans des matchs comme ça, même s'il est moins fort que le titulaire dans le jeu. Parce que tu dois faire appel à des vertus autres que le ballon. Tu dois avoir des types comme ça sur l'équipe. Il s'est complètement trompé.
Carlos, un avis sur ce football allemand?
J'ai vu le match. J'ai vu franchement, et c'était trop facile. Mais et je ne suis pas contre ce qu'il dit Naïm. Parce qu'ils ont joué très naïvement le match. Franchement, j'ai vu les 45 premières minutes. À 4 secondes, j'ai dit, j'arrête, j'ai changé de chaîne. Je me suis mis à regarder, je crois, la Juventus Milan, je crois. Mais franchement, ils ont joué trop naïvement le match. Trop d'égal, égal. Il y a des jours qu'il faut aller chercher un résultat, parce que ces matchs-là ne sont pas à 3 points, c'est à 6 points. Parce qu'après, je suis chez moi et tu dois aller jouer à l'extérieur. Moi, je n'ai pas le droit à perdre le match. Et au bout de 20 minutes, 25 minutes, il a passé par-dessus.
C'était l'avis de Carlos Bianchi sur ce classiqueur. On va remercier David Lortolari. On vous laisse là-bas, outre-Rhin. Hein, on vous souhaite un bon séjour.
Oui, et merci beaucoup.
Salut David.
À bientôt David, merci ciao.
Ciao David, mange-toi une saucisse.
Salut à tous.
Oh là, vraiment, alors le cliché avec Carlos Bianchi.
Mais oui, allez, je suis jaloux.
Partons en Afrique pour quelques minutes, s'il vous plaît.
Je suis jaloux, j'aime les saucisses, mon Dieu, c'est incroyable. J'adore.
sur un jingle football africain, vous aurez entendu la voix de Carlos Bianchi qui vous déclare son amour pour les saucisses. Il aime la choucroute. Alors, revenons sur ces quarts de finale aller de Ligue des Champions d'abord. On peut dire qu'il y en a deux qui sont pratiquement joués, deux pour lesquels le suspense est total, Hugo Moissonnier. On commence par ceux qui sont très bien partis, c'est le moins que l'on puisse dire, après Pretoria et Mamelodi Sundowns.
Ah oui, les vainqueurs de la Ligue des Champions en 2016 qui ont laminé, explosé, je ne sais quel terme employé, le Al Ahly, le grand club égyptien qui détient le record de 8 victoires, octuple champion d'Afrique, 5-0 pour le Mamelodi Sundowns. C'est vous dire si c'est bien parti pour les Sud-Africains. Le Al Ahly finaliste l'an passé, un finaliste malheureux face à l'Espérance de Tunis, bien parti, elle aussi, succès à domicile, succès à l'extérieur, en Algérie, face à Constantine, 3-2, hein, l'Espérance qui a mené 2-0, qui s'est fait rejoindre, puis qui finalement l'a emporté. Ça devrait plutôt le faire pour
un match qui avait failli être remis, et les problèmes d'inondation du côté de Constantine sont partis un peu au dernier moment, les joueurs de l'Espérance. On rappelle que c'est le centenaire de l'Espérance, cette année.
La défense de Constantine a pris l'eau, donc bon.
En tout cas, il y a eu un beau chassé-croisé dans ce match-là. 1-0, 2-0, 2-1, 2-2. Et puis on est revenu avec cette victoire 3-2. Les deux autres matchs qui concernent des clubs francophones, on y est toujours un peu plus sensible, nous, à RFI, sont beaucoup plus ouverts avant les matchs retour. Hein.
Alors, c'est simple, deux matchs nuls et vierges à l'arrivée. Un bon match nul pour le tout-puissant Mazembe en Tanzanie sur le terrain de Simba Sports, où il est parfois difficile de ne pas vivre quelques mésaventures. Les compatriotes, ceux de la SV Club de Kinshasa, peuvent en parler.
Il faut pas boire localement.
Vaut mieux s'abstenir des bouteilles d'eau qu'on peut vous offrir. Match nul 0-0 également pour le Oruya de Conakry. Alors cette fois à domicile, donc c'est peut-être un peu moins bon. C'est moins bonne opération. Face quand même à un très gros morceau, le Wydad Casablanca, Wydad Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions en 2017.
Alors, les matchs retour, bien sûr, c'est ce dans week-end, tout simplement. 8 jours, donc même pas 5 jours, 6 jours, puisque c'est le week-end de prochain.
Le week-end qui arrive, exactement.
Fixé, qu'en est-il de la Coupe de la CAF? Là, on a un club marocain, la Renaissance de Berkane, qui a pris une très très grosse option.
N'a même pas eu besoin d'Alain Traoré, son Burkinabé, pour aller s'imposer 2-0 au Kenya sur le terrain de Gormaya. 2-0 à l'extérieur, ça devrait logiquement passer pour
Gormaya.
En
limite de compétences, là, ils ont atteint leur niveau.
Effectivement, c'est pas habituel de les voir à ce niveau-là.
Si t'as pas même dit dans les buts, ça peut faire 2-2, voire 3-2 pour Gormaya quand même.
Les clubs tunisiens, deux sont encore engagés dans cette Coupe de la Confédération. L'Étoile Sportive du Sahel, victoire 3-1 à domicile face à El Hilal, ça devrait logiquement passer. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Sfax qui se contente d'une défaite sur le terrain des Zambiens de Nkana 2-1, et il s'en contente. Je dis ce mot à dessein tout simplement parce que c'est quasi impossible. Personne ne s'impose sur le terrain des Zambiens de Nkana, invaincu à domicile depuis 45 ans en coupe d'Afrique, donc c'est vous dire. Ce but inscrit par Sfax dans les tout derniers instants, qui permet quand même d'y croire pour le match retour. Le dernier match, la dernière double confrontation, la moins équilibrée sur le papier, Agadir, les Marocains contre les Égyptiens du Zamalek, 0-0 à l'arrivée, donc c'est plutôt équilibré, avec même une domination pour Agadir à domicile.
Rendez-vous bien sûr ce week-end dans Mondial Sport pour avoir les résultats complets de ces quarts de finale, connaître le tableau des demi. Bien sûr, ce week-end on parlera beaucoup, bien sûr, du tirage au sort de la CAN. On vous l'a dit, la dame est sur place. Vous la retrouverez jeudi, vendredi. Demain, c'est moi que vous aurez le plaisir de retrouver. Désolé, il y aura aussi Gauthier. Non, il s'appelle pas Gauthier. Non, il s'appelle Guillaume. Et puis il y aura aussi Pierre-Olivier Guérin. Bref, toute la bande. Et on aura deux émissions demain. Attention.